Tout de suite, notre émission, un tout petit peu retardée, décalée, pour la dignité, une émission sur les droits humains qui a lieu chaque dernier lundi du mois. Bonjour Régis.
Bonjour Odile. Bonjour à tous. Voilà, alors, il y a trois jours, là, c'était le 28 mai 2021, nous avons fêté les 60 ans d'Amnesty International, donc... On va revenir un peu sur cet anniversaire et tout ce que nous avons obtenu depuis 60 ans. Et puis on reparlera sur le film qu'on a passé la semaine dernière, L'oubli que nous serons. On parlera du Yémen, de l'Algérie et puis d'une information qui nous concerne parce qu'elle est proche. C'est les 7 de Briançon qui ont eu un nouveau procès en appel... pour délit de solidarité. Voilà, donc on va commencer. Hein. Voilà, le 28 mai 1961, paraissait cet article. Ouvrez votre journal, n'importe quel jour de la semaine, et vous verrez que, quelque part dans le monde, quelqu'un a été emprisonné, torturé ou exécuté parce que ses idées ou sa religion étaient intolérables pour son gouvernement. Le lecteur ressent alors écœurement et impuissance. Mais si ces sensations éprouvées aux quatre coins du monde pouvaient être réunies en une action commune, alors quelque chose d'efficace pourrait se produire. C'est l'avocat britannique Peter Benenson qui, le 28 mai 1961, il y a donc 60 ans, allumait la première flamme d'un combat pour les droits humains qui donnera naissance à Amnesty International. La bougie, entourée d'un barbelé, devient le symbole d'une organisation non gouvernementale, ONG, dont les militants sont les chevilles ouvrières. Dans un monde alors divisé en deux blocs, l'Est et l'Ouest, le principe fondamental d'impartialité s'ajoute à celui de solidarité internationale. L'ONG, dont l'indépendance financière lui assure sa crédibilité, multiplie les missions de recherche, analysant les violations des droits humains à l'aune du droit international. 60 ans plus tard, 70 sections nationales et une quinzaine de bureaux régionaux ont vu le jour à travers la planète. Fort d'une dizaine de millions de membres ou sympathisants, nous sommes devenus un mouvement réellement mondial. Alors j'invite ceux qui nous écoutent, à aller sur le site d'Amnesty pour regarder la vidéo qui s'appelle « Envol pour la liberté » qui a été créée par Bill Shipshe en partenariat avec Celestia. C'est un hommage poétique à notre combat universel sur une bande-son de Peter Gabriel et accompagné de la voix d'Angélique Kidjo, deux artistes parmi les soutiens fidèles de notre mission. Vous verrez, c'est une vidéo qui est vraiment magnifique. Alors notre mission, justement, elle ne cesse d'évoluer sous l'impulsion de militants confrontés aux réalités du monde. Au plaidoyer originel pour la libération des prisonniers d'opinion, se sont d'abord ajoutées l'exigence de procès équitable, et donc de procès équitable pour tous, ainsi que la lutte pour l'abolition de la torture et de la peine de mort. Nous avons aussi contribué à écrire le droit international, œuvrant par exemple au sein de l'ONU jusqu'à obtenir l'adoption de la Convention contre la torture en 1984 et celle des droits de l'enfant en 1989. Puis notre champ d'action s'est élargi à d'autres violations graves des droits humains, liées notamment à l'exil et au déplacement forcé de populations, puis logiquement aux conflits armés. Tous les droits énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 sont interdépendants et indivisibles. C'est pourquoi en 2001, le mouvement a pris la décision majeure d'inclure la défense des droits économiques, sociaux et culturels dans sa mission et les entreprises parmi ses cibles. Les acteurs économiques, et pas seulement étatiques, ont en effet leur responsabilité dans certaines violations, comme celle du droit à vivre dans un environnement sain ou de travailler dans des conditions dignes. Parmi les victoires de ce siècle, Amnesty International compte la création en 2002 de la Cour pénale internationale, instrument de lutte contre l'impunité, et après 20 ans d'un travail acharné, l'adoption en 2014 d'un traité pour réguler le commerce des armes. Plus récemment, l'urgence climatique s'est aussi imposée comme un enjeu majeur, toujours sous l'angle des droits humains. Tout comme la réponse des États à des crises sanitaires, telles que la pandémie du Covid-19. Depuis 1961, Amnesty International porte haut son flambeau pour mettre en lumière de graves injustices et violations, mais aussi des solutions possibles pour mieux faire respecter nos droits fondamentaux. Le vent souffle parfois bien fort, mais notre flamme ne s'est jamais éteinte, car elle est gardée par tous nos membres et nos soutiens. Portés par nos valeurs et nos victoires, nous avons toujours la même conviction qu'il vaut mieux allumer une bougie que maudire l'obscurité. Voilà, alors rejoignez-nous, hein, n'hésitez pas. Plus on sera nombreux, plus on sera fort. On va donc écouter Angéline Kidjo, qui est une chanteuse africaine et qui est amie d'Amnesty. Dans sa chanson « Malaika », elle est accompagnée par l'Orchestre philharmonique du Luxembourg.
Malaika, ta copine de Malaika, Malaika, la copine de Malaika, non, il faut y qui j'en a moins si la chine, la malice, la way, il na shindwa na malisi na we hey, ingekuwa malaika pesa zasubu wa roho nyengu Nashinwana malisi na we ningekuwa malaika kirege ukuwaza kirege Nashinwana malisi na we ningekuwa malaika ningekuwa malaika ningekuwa malaika ningekuwa malaika.
Voilà, très belle voix d'Afrique. Maintenant, je vais vous parler d'un film que nous venons de passer jeudi dernier au Ciné-Étoile à Digne, dans le cadre du festival Au cinéma pour les droits humains. Ce film est de Fernando Trueba. Il s'intitule « L'oubli que nous serons ». Il est adapté d'un livre écrit par Hector, par son fils, le fils du docteur Hector Abad Gomez. Voilà, ça se passe dans les années 80. Le père, donc le docteur Hector Abad Gomez, lutte pour sortir les habitants de Medellín de la misère. Malgré les menaces qui pèsent sur lui, il refuse d'être réduit au silence. Le destin de ce médecin engagé et père de famille dévoué se dessine à travers le regard doux et admiratif de son fils. Adapté de faits réels, L'oubli que nous serons est à la fois le portrait d'un homme exceptionnel, une chronique familiale et l'histoire d'un pays souvent marqué par la violence. Voilà, donc je vous dis que ce film est adapté du roman qui s'appelle « L'oubli que nous serons » d'Hector Abad Faciolens, qui est le fils du docteur. Ce docteur a donc été assassiné, notamment quand il s'est engagé pour la défense des droits humains. Le fils a mis 20 ans avant d'écrire ce livre. Il a intitulé « L'oubli que nous serons » parce que quand il s'est rendu sur le lieu de l'assassinat de son père, il a trouvé dans les poches de sa veste un poème oublié de Borges que son père avait recopié sur un bout de papier et qui s'intitule « Nous voilà devenus l'oubli que nous serons ». Donc, 20 ans après, parce que c'était tellement difficile, il aimait tellement son père, 20 ans après, il se décide à écrire ce livre. Il avait déjà écrit quelques livres auparavant, hein, qui n'avaient pas eu un succès extraordinaire. Ce livre va avoir un succès extraordinaire, notamment en Amérique du Sud. Et c'est mérité parce que c'est un chef-d'œuvre. Je vous conseille vivement de le lire, vous le trouvez en collection Folio. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, le film a été tourné en Colombie avec des acteurs pris dans la population de Colombie et un acteur très connu qui s'appelle Javier Camara. Et c'est intéressant parce qu'on a eu un entretien avec lui et voilà ce qu'il dit. Donc, il partait en Colombie pour un tournage de la troisième saison de Narcos puisqu'il joue dans cette série. Et puis, la femme de Fernando Trueba lui donne un livre, lui demande quel livre il emporte. Et il lui dit, j'emporte un livre de Gabriel Garcia Marquez. Non, je vais te donner un livre qui m'a bouleversé, tu vas voir, c'est un chef-d'œuvre. Et elle lui donne L'oubli que nous serons. Il a dévoré le livre et beaucoup pleuré, et en suivant le destin de cette famille imprégnée de respect et d'amour, au milieu d'une ville défigurée par la sauvagerie. C'est une formidable histoire d'amour entre un père et un fils, nous dit-il. C'est ce que j'aurais voulu vivre avec le mien. Cela n'a malheureusement pas été le cas. Aujourd'hui, j'ai un fils de 3 ans, et pour lui, j'ai pris des notes en lisant le livre. Des bons conseils comme « Si tu veux que ton fils soit bon, rends-le heureux. Si tu veux qu'il soit meilleur, rends-le encore plus heureux. » Nous les rendons heureux pour qu'ils soient bons et pour qu'ensuite leur bonté accroisse leur bonheur. Je peux dire que ce livre m'a changé. Il y a une dimension universelle qui me touche énormément. La bonté, le goût des autres, l'amour de la famille et plus largement une approche radieuse de la vie. C'est vrai que c'est un film qui se termine tragiquement puisque ce médecin est assassiné par des sicarios, c'est-à-dire des jeunes qui sont embauchés par la mafia ou par la police politique. Ou il y a tellement de groupes dangereux en Colombie, qu'ils soient étatiques ou non. Ils embauchent des jeunes souvent de familles monoparentales qui vivent dans la misère et pour de l'argent, ils vont assassiner telle ou telle personne. Voilà. Alors on continue avec l'entretien de Javier Camara. On lui a demandé comment il avait abordé ce personnage. « C'est la première fois, dit-il, que je joue un personnage réel, dont la famille et les amis sont vivants. C'est très intimidant de tourner en Colombie, une histoire que tout le monde connaît là-bas, y compris les acteurs et techniciens qui interviennent dans le film. Quand Fernando Trueba m'a proposé le rôle, j'étais en plein tournage de la série The New Pop en Italie. J'ai profité de tous les moments libres pour absorber un maximum d'informations. J'ai pu rencontrer la famille du docteur Abad, sa femme et ses enfants. Cela m'a énormément aidé. Et puis je me suis dit, maintenant tu construis ton rôle, car il n'est pas question de faire une imitation. Il me fallait rendre la complexité du personnage, mélange d'extrême douceur vis-à-vis des autres et de sa famille, et de détermination farouche dans ses engagements. Ce fut un tournage miraculeux. Nous, les acteurs et les techniciens, n'avons pas seulement travaillé en osmose, mais véritablement vécu ensemble comme une famille. Parce que cette histoire n'est pas n'importe quelle histoire. Elle nous a habités au plus profond de nous-mêmes. C'était plus qu'un film. C'était une cause commune. J'ai adoré tourner avec les comédiens colombiens et en particulier les deux enfants qui ont montré une maturité incroyable. Quand je parle du film, je suis encore ému. Quand je vois les bandes annonces, je pleure. C'est le rôle de ma vie. Voilà, c'est l'entretien de Javier Camara. Donc, je vous conseille d'aller voir ce film. Donc, c'était une avant-première que nous avons faite à Digne. Je crois qu'il sort le 9 juin. L'oubli que nous serons de Fernando Trueba, c'est un très, très grand film. On va maintenant écouter encore Kidjo, qui chante avec Angoon, Né quelque part.
On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. On choisit pas non plus le trottoir de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Être né quelque part. Être né quelque part pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. Ils savent où sont leurs œufs. Être né quelque part. Être né quelque part, c'est parti quand on veut. Revenir quand on part.
Est-ce que les gens n'est-ce
s'arrête un peu.
Ça s'arrête brusquement.
Un peu brutalement.
Voilà, alors on va maintenant parler du Yémen. Alors j'en ai parlé souvent sur cette radio, sur cette antenne, notamment pour demander à la France, hein, Amnesty demande à la France de cesser de vendre des armes aux Émirats Arabes Unis qui font partie de la coalition qui mène une guerre au Yémen où il y a de graves crimes qui sont perpétrés là-bas, hein, notamment des bombardements d'hôpitaux, d'écoles, de quartiers avec beaucoup de civils. Voilà. Donc, on demandait justement, dans le cadre du traité sur le commerce des armes, dont nous avons contribué à l'élaboration et à la signature, nous demandions à la France de cesser de vendre ses armes. Mais dans ce conflit, au Yémen, la guerre se déroule entre les forces de l'État et un groupe armé qui s'appelle les Houthis, et qui contrôle de vastes zones au Yémen, dont la capitale Sanaa. Et nous venons de sortir un rapport, justement, parce que nous avons eu des témoignages de Yéménites qui ont été arrêtés et torturés par les Houthis dans le cadre du conflit. Ces détenus, c'était souvent des journalistes, des opposants politiques ou des membres d'une minorité religieuse Baha'i. Et puis finalement, dans le cadre d'accords politiques en 2020, ils ont été libérés. C'est pour ça qu'on a pu avoir ces renseignements. Alors, qui sont les Houthis? C'est un groupe armé dont les membres sont adeptes du zaïdisme, un courant de l'islam chiite. Il contrôle de vastes zones du Yémen depuis fin 2014. Le groupe armé a pris le contrôle de Sanaa en septembre 2014 et s'est emparé du palais présidentiel en janvier 2015, provoquant la démission du président Ali Abdullah Saleh. Le 25 mars 2015, une coalition d'États dirigée par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis est intervenue à la demande du président en vue de réinstaller au pouvoir le gouvernement reconnu par la communauté internationale. Cette opération, au cours de laquelle la coalition a lancé un raid aérien contre les forces houthies, a marqué le début du conflit armé au Yémen, qui est l'un des pires conflits de ce début du XXIe siècle. Voilà, donc on a pu donc interroger des personnes et voilà ce qu'on nous a dit. Un membre de la communauté Baha'i, qui a été obligé de quitter le Yémen une fois relâché, a dit « J'ai supplié les autorités de me laisser voir mon père, mais en vain. Il a 80 ans et je ne le reverrai plus jamais. C'est la chose la plus terrible de toute ma vie, de devoir abandonner mon père derrière moi. » Parce qu'en fait, ils sont montés à bord d'un avion de l'ONU à destination d'Addis Abeba, en Éthiopie. Encore aujourd'hui, ces Baha'is expulsés sont toujours bannis du Yémen. Ils ne peuvent pas rentrer chez eux. Un autre témoignage. Nous voulions rester à Sanaa, mais les Houthis ont refusé de nous libérer sans condition, alors que le tribunal a statué en faveur de notre libération. Nous n'avions pas d'autre choix que d'accepter cet accord et de quitter le nord, une zone sous contrôle des Houthis. Ma maison et ma famille sont à Sanaa. Toute ma vie se trouve à Sanaa. C'est le témoignage d'un journaliste qui a été maintenu en détention pendant 5 mois par les autorités houthis. L'exil pour le motif de croyance religieuse ou d'opposition politique constitue une violation flagrante du droit international relatif aux droits humains. L'exil imposé aux prisonniers viole l'interdiction de procéder à des déplacements forcés inscrits dans le droit international humanitaire. Cela peut constituer un crime de guerre. Les 12 anciens détenus que nous avons interrogés ont tous été torturés ou soumis à d'autres formes de mauvais traitements durant leur interrogatoire et leur détention. Ils nous ont raconté que les membres des forces houthies les frappaient à coups de barres de fer, de câbles électriques, d'armes et d'autres objets, les plaçaient dans des positions douloureuses, les aspergeaient d'eau, menaçant souvent de les tuer ou les placer à l'isolement pendant des périodes allant jusqu'à 20 jours à plusieurs mois. Un journaliste nous a même raconté avoir été soumis à un simulacre d'exécution. J'ai entendu le bruit d'un tir derrière moi. J'ai imaginé que cette balle allait me toucher. Ils m'ont donné un coup de pied et m'ont poussé dans le trou. Je suis tombé face contre terre. Je me suis mis à pleurer et à penser à mes enfants parce que j'étais convaincu qu'ils allaient m'enterrer vivant. Je les suppliais de me tuer d'abord. Le même homme m'a dit, on va t'enterrer ici et ta famille ne saura jamais où tu es. Voilà, c'est le témoignage d'un journaliste yéménite, ancien détenu. Ces témoignages sont souvent insoutenables. Le tableau est donc terrifiant au niveau des atteintes aux droits humains. Et nous demandons, Amnesty International demande aux autorités houthies de mettre sans délai un terme à ces agissements, en mettant notamment un terme à l'exil forcé, une violation scandaleuse du droit international. Les autorités doivent permettre à toutes les personnes exilées de rentrer chez elles. Nous appelons également les autorités houthies à libérer de façon immédiate et inconditionnelle toutes les personnes détenues uniquement pour avoir exercé pacifiquement leurs droits. Cela doit être fait sans prendre de mesures d'exil ni de bannissement. Voilà ces témoignages très forts de personnes détenues par les Houthis dans ce conflit au Yémen. On va maintenant écouter Vianney dans une chanson qui s'appelle « Dabali ».
Dabali.
Dabali.
Yeah, Dabali.
Dabali.
Yeah.
C'est joli, Dabali.
Dabali.
J'ai vu des terres brûlées sous des soleils d'Afrique qui donnaient du fruit. J'ai vu des hommes parler dans des langues antiques, mais l'on s'est compris. Dabali Kusabata, des Bolanio d'Habitat. Dabali Kusabata, de Baorbeka. J'ai vu des ciels ardents et la fumée des volcans pour seuls nuages. J'ai vu des ciels d'ébène et soudain dans la nuit les yeux de Dabali. Dabali Kusabata, des Bolanio.
Voilà, magnifique chanson de Vianney, et une chanson qu'il a composée lors de son voyage en terre inconnue, qu'on peut revoir avec grand bonheur à la télévision, quoi. Hein, on peut le retrouver en replay. C'était lors de son voyage en Éthiopie, et c'était vraiment très très émouvant, bouleversant, je dirais, de ses rencontres avec ces gens du bout du monde. Il y a toujours tellement d'amour.
Oui, on voit hein, que globalement, les gens aiment les contacts, la chaleur humaine. Hein. Voilà.
Et puis, oui, malgré toutes les énormes différences de vécu. De
civilisation, ouais. De façon de vivre. Ah, oui, les hommes arrivent à communiquer. C'est vraiment une émission qui est très belle pour ça. Hein. Ouais.
Et pour la tolérance, oui, de mode de vie, de croyance, etc. Oui.
Ouais, ouais. C'est bien, c'est une belle émission. Ouais, ouais. Voilà, on va maintenant en Algérie, où les autorités intensifient la répression du mouvement Hirak. Vous savez que ce mouvement, il est né avant la pandémie. Et puis, bien sûr, la pandémie a freiné beaucoup de ces mouvements spontanés des peuples qui demandent, en fait, plus de démocratie dans leur pays, comme on a vu pendant ce qu'on a appelé les printemps arabes. Mais il y a, comme ça, beaucoup de peuples qui manifestent de façon pacifique pour leurs droits, pour une vraie démocratie, contre la corruption, voilà. Et souvent, les répressions sont terribles. On le voit en Colombie, puisqu'on parlait de la Colombie à l'occasion du film. En Colombie, en ce moment, il y a une répression terrible sur des manifestants pacifiques. Et on a les preuves, on a vu des enregistrements, on a confirmé que l'armée tirait à balles réelles pour tuer en visant les manifestants. Il y a des morts en Colombie sur des gens qui simplement essaient de survivre parce qu'il y a des écarts qui sont gigantesques entre les gens très très riches et qui sont souvent corrompus aussi, et puis les pauvres qui sont de plus en plus pauvres. Voilà. Et donc en Algérie, c'est ce qui il y a aussi des manifestations pacifiques contre un pouvoir qui est aux mains de militaires depuis très longtemps. Et puis en février, donc après une interruption due à la pandémie qui a empêché les gens de manifester, depuis février, les militants du mouvement du Hirak sont à nouveau dans les rues chaque semaine. Les autorités algériennes continuent de réprimer les manifestants à Alger et dans d'autres villes du pays. Pour la première fois, des accusations de terrorisme sont portées contre les journalistes et des défenseurs des droits humains de l'Irak. Cette répression menée par les autorités algériennes survient alors que les élections législatives doivent se dérouler dans 12 jours. Des professeurs, des journalistes, des défenseurs des droits humains algériens sont pris pour cible par les autorités. Ils encourent tous la peine de mort ou de lourdes peines de prison sur la base de charges fabriquées de toutes pièces, telles que participation à une organisation terroriste et complot contre l'État, en relation à leur participation à des manifestations pacifiques. Leur procès a commencé le 18 mai. Alors cette accusation de terrorisme, c'est facile pour un État totalitaire d'accuser ces citoyens qui veulent de la démocratie de terroristes. En fait, ces charges qui sont retenues ne sont qu'un écran de fumée visant à réduire au silence ces défenseurs des droits humains et à étouffer leur action. C'est ce qu'a dit la directrice adjointe pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord à Amnesty International. Les autorités algériennes ont intensifié la répression visant les militants du Hirak ces derniers jours. Au moins 44 manifestants ont été arrêtés et poursuivis pour avoir pris part à des manifestations pacifiques le 14 mai. En tout, au moins 124 militants se trouvent actuellement en détention en Algérie en raison de leur participation à ces actions de protestation, selon le Comité national pour la libération des détenus, une association locale tenant un rôle d'observateur critique. Le journaliste Saïd Boudour a dit que 5 policiers l'ont soumis à une arrestation brutale, alors qu'il couvrait une manifestation du Hirak à Oran le 23 avril. Il nous a dit « Ils nous ont donné des coups de pied, nous ont frappé à coups de poing et de matraque, nous ont giflé, nous ont insulté. J'avais du sang sur le visage. » Nous appelons les autorités algériennes à mettre un terme au procès visant des défenseurs des droits humains et des militants du Hirak et à garantir les droits à la liberté d'expression et de réunion pacifique en prévision des élections législatives de juin. Voilà le communiqué d'Amnesty International. Tous ces communiqués, vous pouvez les retrouver sur le site. Alors, on a deux sites, en fait. Il y a amnesty.fr, qui est le site de la section française. Et vous avez aussi amnesty.org, qui est le site international. Et ce site, vous verrez qu'il est en anglais quand vous l'ouvrez. Mais vous avez en haut à droite, la possibilité de cliquer pour l'avoir en espagnol, en français, en arabe. Donc, il est dans 4 langues différentes. Voilà, et vous avez aussi des informations sur Amnesty International. Voilà, et bien, puisqu'on était en Algérie, on va écouter l'hommage à ce grand chanteur Idir, qui nous a quittés il y a peut-être un an à peu près. Voilà, on écoute.
Mon reflet sur une glace me parle au présent. Les rides sur mon visage ne m'ont jamais fait vouban. Tout ce temps, j'ai pu garder mon cœur d'enfant.
Outre le coquillage, j'entends l'océan.
J'aime y faire naufrage, laisser m'emporter le vent. Tout ce temps, j'ai pu garder mon cœur d'enfant. Les histoires de ma grand-mère, j'y repense souvent.
Comme si c'était hier,
je suis un petit garçon qui tout ce temps, garder son cœur d'enfant. Tout ce temps a pu garder son cœur d'enfant.
فل استقري فسال
طيف الحباب تسلم هاوي باكي غي حبر
ما تلات وزي العمار هاد نوبة الغردة غرمان ما إلا واني أفتشو
يسمح بك لوان
روح نكوني
رزاني فدني ديني بدني تسوقا مش على ذنوبي
مرحبا سويني نجيب ويضا ما يلها ما ديري ما تغلي بغالي قوية نكوني صحيح فامدي مرحبا سويني
حزنم متحملة كون عطاس أكني يتحملم يكون حملة أصدرها باللي أغرثو ياثيو لا نوذني أحملم أكني نلغح
We'll be right back. أبريد الجدودي فمدن ولاد
Alors maintenant, nous allons parler de ce qui s'est passé plus près de nous, puisque ça s'est passé à Grenoble. En effet, le 27 mai, s'est tenu à Grenoble le procès en appel des 7 personnes solidaires, reconnues coupables en 2018 d'avoir aidé à l'entrée et à la circulation sur le territoire national de personnes en situation irrégulière. En fait, ceux qu'on appelle les 7 de Briançon, Bastien, Benoît et Léonora, Juan, Lisa, Mathieu et Théo avaient simplement participé à une manifestation. En effet, qu'est-ce qui s'était passé ? Le 22 avril 2018, les 7 de Briançon participent à une manifestation qui dénonce une action de génération identitaire. La veille, ce mouvement d'extrême droite, qui a été dissous en mars 2021, avait bloqué le col de l'Échelle dans les Hautes-Alpes pour bloquer la frontière. La manifestation à Briançon du lendemain vise alors à exprimer plus largement une résistance face à la militarisation de la frontière et une vive opposition aux discours de haine et aux violences qui mettent la vie des personnes étrangères en danger. À la haine notamment de ce groupe Génération Identitaire, ces militants ont répondu par la solidarité. Il est inacceptable que pour cela, certaines aient été condamnées à de la prison ferme. C'est Agnès Antoine qui parle, membre du comité de soutien des 7 de Briançon. En effet, suite à cette manifestation en 2018, 7 personnes sont condamnées à des peines allant de 6 mois avec sursis à 12 mois de prison, dont 4 mois ferme. Les 7 de Briançon ont fait appel de cette décision. Ils risquent maintenant jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. En appel, les juges auront à décider s'il était criminel ou non d'exprimer publiquement leur soutien aux personnes exilées et de s'opposer aux opérations d'intimidation de génération identitaire. Alors le président de l'ANAFE, c'est l'Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers, a déclaré « Les personnes solidaires ne doivent pas être poursuivies ou condamnées pour avoir manifesté leur soutien aux personnes dont les droits sont quotidiennement violés notamment à la frontière franco-italienne. Ces pratiques d'intimidation et de pression à l'encontre des défenseurs des droits humains sont inadmissibles et mettent en danger l'impératif de fraternité qui est le nôtre, puisqu'il est inscrit sur les frontons de toutes nos mairies. » Donc il y a plusieurs associations, Amnesty International France, l'ANAFE, la CIMAD, Médecins du Monde, Tous Migrants et le comité de soutien des 7 de Briançon, qui appelle à la relaxe immédiate et définitive de ces défenseurs des droits humains. Les lois de la République ne sont pas faites pour cibler ou harceler les défenseurs des droits, quels que soient ces droits, et ceux en particulier des personnes exilées. Aider des personnes exilées n'est pas une infraction. Là où certaines personnes devraient être remerciées et protégées car elles luttent contre la montée des idéologies xénophobes dans la société française, c'est l'inverse qui est constaté. Henri Masson, président de la CIMAN, nous dit « Nos associations constatent qu'en France, des personnes apportant une aide à celles et ceux qui en ont besoin sont de plus en plus souvent gênées dans leur action et parfois même poursuivies pénalement. Elles devraient, au contraire, être protégées. Nous appelons la France à s'engager en faveur de la protection des défenseurs des droits humains. Par sa législation et sa pratique, elle ne doit pas criminaliser l'aide apportée pour le respect des droits des personnes exilées. nous nous opposons à la criminalisation des solidaires. Les États doivent s'assurer que les personnes et les organisations soient en mesure de mener leur activité dans un environnement sûr et sans crainte de représailles. À travers ces poursuites pénales, prenant pour cible la solidarité et le devoir de fraternité, ce sont les droits à la liberté d'expression et de réunion des manifestants qui sont attaqués, nous dit Cécile Coudriou, qui est la présidente d'Amnesty International France. Les violations des droits des personnes exilées aux frontières, notamment à la frontière franco-italienne, sont nombreuses et quotidiennes. Le non-respect des garanties légales lors de refoulement vers l'Italie, l'impossibilité de demander l'asile ou l'assistance d'un médecin sont des situations qui mettent en danger la vie des personnes exilées. Les personnes solidaires font preuve de fraternité en défendant leurs droits. La solidarité et la fraternité ne sont pas des délits. Elles doivent être encouragées et non punies. Défendre la justice et l'égalité est un droit qui doit être garanti et respecté. Voilà, et nous continuerons à nous battre pour toutes ces valeurs. On va terminer cette émission par une chanson d'un groupe toulousain qui s'appelle El Gato Negro, et leur chanson s'appelle Ouvre la porte.
Nous sommes des milliers qui arrivons sur le sable. Au loin les voix de ceux qui ne partagent pas leur table. Toi l'Auvergnat qui fut un jour si aimable, ouvre la porte je t'en supplie. On a vécu tous les supplices, on veut juste sortir de la merde. On a voyagé dans la pisse, donne-moi le vert de ton herbe. Pas le bleu de la police qui nous repousse dans la mer en criant patrie et justice. Si l'Afrique est votre mère, la France est notre fils. Ouvre la porte. Ouvre la porte, c'est moi. Ouvre la porte. Ouvre la porte, c'est moi. Tu peux choisir de barricader tes rues, laisser mourir ou faire celui qui n'a pas vu. Elle est à toi, cette chanson, toi l'Auvergnat, mauvais garçon. Ta politique du repli qui voudrait noyer le poisson. Pas le bon papier, contrefaçon, contre le mur de toute façon. Pas par ici, retour maison, maman là-bas qui risque la prison. Mais tu crois quoi? Tu m'envoies où? Viens nous en aide si tu as les couilles. Là-bas c'est le feu, là-bas il fait faim. Ouvre les yeux et donne la main. Ouvre la porte. Ouvre la porte, c'est moi. Ouvre la porte. Ouvre la porte, c'est moi. Le ciel ne t'appartient pas. Le sol ne t'appartient pas. Mon sang ne t'appartient pas. Le ciel ne t'appartient pas. Mon sang ne t'appartient pas. Ouvre la porte. Ouvre la porte, c'est moi. Ouvre la porte. Ouvre la porte, c'est moi. Ouvre la porte.
Thank you.
Tabali.
Tabali.
Eh, Tabali.
Tabali. C'est joli, Tabali.
Tabali.
J'ai vu des terres brûler sous des soleils d'Afrique qui donnaient du fruit. J'ai vu des hommes parler dans des langues antiques, mais l'on s'est compris. Dabali Kusabata, Debora Nio Davita. Dabali Kusabata, Deba Orbeka. Des ciels ardents et la fumée des volcans pour seul nuage. J'ai vu des ciels d'ébène et soudain dans la nuit les yeux de Dabali. Dabali Kusabata, ouais. Des polars.